Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Serviteurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Le Parlement indonésien approuve le projet du budget de l'État de 2018. 2018, le développement dans la région frontière sur les infrastructures sociales. Le week-end indonésien est organisé à nouveau à Londres. Les investisseurs doivent respecter la politique de développement à Sanur, Bali. Par le biais du festival Europalia, le public européen veut voir la diversité de l'Indonésie. Voici le journal complet. La session plénière du Parlement indonésien à Jakarta a approuvé mardi le projet de budget de l'État de 2018. Plusieurs points convenus dans ce projet sont entre autres les objectifs de développement de 2018 couvrant le chômage, la pauvreté, l'indice de développement humain et les objectifs de croissance économique. Dans son rapport, le président de l'agence de budget du Parlement indonésien, Aziz Syamsuddin, a déclaré que l'agence de budget a approuvé l'hypothèse de taux de chômage dans la gamme de 5,0 à 5,3%. Le taux de pauvreté est de 9,5 à 10%, tandis que l'indice de développement humain est d'accord sur 71,5.
Sedangkan target pembangunan di dalam tahun 2018,
l'objectif de développement en 2018, d'abord sur le chômage convenu à 5,0 à 5,3%. Deuxièmement, le taux de pauvreté est de 9,5 à 10%, Gini ratio 0,38 et l'indice de développement humain à 71,50%. En outre, le président de l'agence de budget du Parlement, Aziz Syamsuddin, a mentionné que lors du scrutin de budget de l'État en 2018, la croissance économique a été convenue de 5,2 à 5,6% avec un taux d'inflation de 2,5 à 4,5%. Il a transmis la réalisation du taux de chômage ouvert ou TPT et du taux de pauvreté en 2018 a été fortement influencé par la réalisation de la croissance économique pour générer des opportunités d'emploi. Selon lui, de nouvelles opportunités d'emploi de qualité sont nécessaires pour réduire le TPT. En outre, la baisse du chômage devrait également avoir des implications sur la réduction du nombre de personnes pauvres. 2018, le développement dans les régions frontalières est axé aux infrastructures sociales. Le développement des infrastructures sociales comprend la construction de centres de santé communautaires, les marchés traditionnels et les bâtiments scolaires. Cela a été dit par le ministre de l'Intérieur, Cahyo Kumolo, quand il a assisté à une réunion de coordination du contrôle de la gestion des frontières du pays en 2017 à Jakarta, mercredi. Le développement des infrastructures sociales qui comprend 187 sous-districts frontières. Si le ministre des Communications et des Technologies d'Information est déjà terminé son roaming, comment le Puskesmas, les marchés traditionnels, les écoles primaires? Donc, il y a une augmentation du bien-être. Selon le ministre Cahyo Kumolo, le développement des infrastructures sociales dans la région frontalière en 2018 est aussi suivi par le renforcement du secteur de la défense. Pendant ce temps, le développement des infrastructures économiques par le ministère concerné dans la région frontalière en voie d'achèvement actuellement à la réalisation de 99%, le gouvernement cible le développement des infrastructures économiques et sociales dans les zones frontalières, comme la mise en œuvre de programmes stratégiques nationaux qui peuvent fonctionner à temps. Le week-end indonésien se tiendra au Potter's Field Park, Londres, en Angleterre, les 22 et 23 juillet 2017. L'événement qui vise à introduire les destinations touristiques, culturelles et culinaires d'Indonésie a eu lieu pour la première fois en 2016 et a attiré plus de 30 000 visiteurs de 50 pays. Cette année, le week-end indonésien montrera l'atmosphère chaleureuse de l'Indonésie avec le thème « Une fête de la plage ». Le directeur du patrimoine et la diplomatie culturelle du directeur général de la culture du ministère de l'Éducation et de la Culture, Najamuddin Ramli, lors de la conférence de presse tenue mercredi 12 juillet, a expliqué que le week-end indonésien n'est pas seulement destiné à introduire la culture indonésienne dans la société britannique, mais aussi aux étrangers qui visitent le Royaume-Uni.
Memang kalau untuk diplomasi budaya kita di Inggris Raya, Indonesia itu sudah sangat.
Notre diplomatie culturelle avec la Grande-Bretagne, l'Indonésie est déjà très populaire. Mais ce week-end indonésien est destiné aux pays voisins du Royaume-Uni afin qu'ils puissent en apprendre davantage sur la culture indonésienne. Najamuddin Ramli expliquait, pencak silat Indonesia sera présenté à cet événement. En outre, il existe également des démonstrations pour cuisiner des aliments indonésiens tels que rendang, soto betawi et gado-gado. La musique d'angklung, le jeu traditionnel gasing, la danse de masque et la danse jaipong animeront le week-end indonésien avec le refond, le bâtiment emblématique de Tower Bridge. Le tatoueur Ken va mettre en valeur ses compétences pour soulever les motifs de Dayak et de Mentawai. À la même occasion, la directrice de la promotion du tourisme international du ministère indonésien du tourisme, Nia Niscaya, expliquait que la visite des touristes britanniques en Indonésie sont les plus élevées par rapport aux autres pays européens. Cette année, le ministère du tourisme cible la visite de 380 000 touristes britanniques en Indonésie et dans les 3 à 4 mois, il y a eu déjà 150 000 visites de touristes britanniques. Aujourd'hui, Sanur est l'une des destinations favorites sur l'île de Bali et située à Denpasar. Le chef de la Fondation du développement de Sanur, Ida Bagus Gede Siddhartha Putra, a déclaré à RRI à Sanur mercredi que le maire de Denpasar, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, a publié une régulation sur le zonage du développement à Sanur. Cette régulation est devenue des investisseurs dans le développement de l'hébergement touristique à Sanur. Enfin, la régulation de maire est publiée. Il y a le zonage, il y a le critère de développement, comme par exemple la première zone atteint 30 mètres carrés. La hauteur du bâtiment doit être de 3 étages. Chaque inacre doit y avoir un arbre. KDB ou coefficient de construction de base, seulement 40%. Maintenant, il y a la régulation, donc nous gardons le contrôle de cette communauté. Selon Ida Bagus Gede Siddhartha Putra, quelques investisseurs essaient de violer cette régulation. Quelques hôtels à Sanur ne respectent pas la régulation du maire numéro 6/2016 sur le zonage des zones stratégiques de Sanur. Ils souhaitent que la communauté puisse jouer un rôle actif à rapporter l'hébergement touristique à Sanur qui ne correspond pas aux règles. Les rapports seront soumis au gouvernement municipal de Denpasar. L'Indonésie est un pays invité au prestigieux Festival des arts culturels, Festival Europalia, qui tiendra du 10 octobre 2017 au 21 janvier 2018 dans 8 pays européens. Lors d'une conférence de presse tenue au Musée national de Jakarta, mardi le 11 juillet 2017, l'un des membres de l'équipe d'experts scientifiques Europalia, Idham Setiadi, a expliqué que le Festival Europalia était l'un des efforts de la diplomatie culturelle pour garder les relations entre l'Indonésie et l'Europe. Selon lui, à travers ce festival, l'Indonésie montrera sa vision. Dans ce festival, l'Indonésie ne montre pas seulement la beauté de l'Indonésie, mais aussi les idées de l'Indonésie à afficher.
Yang menarik di mereka sebetulnya hal-hal yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka.
La chose intéressante pour eux est en fait les choses qui répondent à leurs questions sur la diversité. L'Indonésie est plus diversifiée que les pays d'Europe. Comment maintenir l'intégrité dans un pays diversifié? Ce sont des questions qui veulent être répondues non seulement à travers des expositions, mais aussi des spectacles artistiques, des discussions et autres. Idham Setiadi expliquait, la diversité de l'Église sera affichée à travers 400 artefacts qui seront amenés là-bas. Ces collections sont le résultat d'un accord entre le conservateur européen et l'Indonésie. L'exposition sur les ancêtres est devenue l'une des principales concentrations qui seront apportées au Festival Europalia. L'exposition Ancestor montre les diverses façons dont la société indonésienne apprécie les ancêtres. Diverses traditions comme le carnaval, Mudik et Nyadran seront également affichées en Europe. Les artefacts apportés sont les collections de musées nationaux, Sumatra, Papouasie, etc. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les amusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteur, voici donc le commentaire et pour le titre, les pour et contre de la réglementation gouvernementale sur la dissolution des organisations de masse. L'effondrement du nouvel ordre et l'ère de réforme en 1998 a apporté des avantages en commençant l'ère de libération pour exprimer et organiser. À l'ère de réforme, diverses organisations sociales, politiques et l'organisation de masse ont existé. Diverses manifestations, ou parfois appelées une manifestation pacifique, sont de plus en plus libres à faire pour refuser une politique gouvernementale. Cependant, l'existence des organisations et ces manifestations ne sont pas en accord avec la loi applicable. En conséquence, le gouvernement a publié un règlement sur les organisations de masse. En réponse, le président de la commission 3 du Parlement, ODPR, Bambang Susatyo, a dit « Bien que la réglementation gouvernementale au PERPO ait été publiée, la dissolution des organisations de masse radicales par le biais du tribunal pourrait se poursuivre. » Il a affirmé que la délivrance des PERPO des organisations de masse radicales incombe au président de maintenir la sécurité de la République indonésienne. Cette mesure est conforme à l'autorité du président en tant que chef de l'État. Dans le mécanisme, le DPR a le droit de rejeter ou d'accepter le règlement proposé par le gouvernement. Pendant ce temps, le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et des sécurités, Wiranto, a déclaré mercredi que la loi numéro 17-2013 sur les organisations de masse est faible en termes de substances liées aux normes, interdictions et sanctions procédures légales. Cette loi n'a pas été jugée incarner le principe de droit comme l'administration de contrario actus, à savoir les principes qui permettent l'organisme qui a délivré le permis et l'organisme qui a le pouvoir de révoquer ou l'annuler. Ainsi, le gouvernement a publié un règlement du gouvernement en remplaçant de la loi numéro 2-2017 pour corriger la faiblesse de l'ancienne loi. Pendant ce temps, un expert en droit et un avocat, Yusril Ija Mahendra, considère que le contenu de cette réglementation gouvernementale est le recul de la démocratie dans ce pays. La réglementation ouvre des opportunités pour une question arbitraire et incompatible avec les idées de la réforme. Selon lui, la loi numéro 17-2013 sur les organisations de masse existantes devrait être assez bonne. Cette loi stipule que le gouvernement n'est pas facile de dissoudre les organisations de masse, mais doit d'abord prendre une mesure convaincante, donner un avertissement écrit et arrêter les activités temporaires à cette organisation. Si elle est inefficace et que le gouvernement est prêt à la dissoudre, le gouvernement devrait demander l'approbation des tribunaux avant de dissoudre l'organisation. La dissolution d'une organisation est la tâche du gouvernement dans le but de contrôler la situation et les conditions. Cependant, avant la résiliation formelle, il devrait y avoir des mécanismes et des raisons sous-jacentes pourquoi cette organisation est dissoute. En outre, la fondation d'une organisation officielle devrait également se référer aux dispositions et aux exigences qui ont été prises par le gouvernement, qui est résumé de la contribution de divers chercheurs et personnalités publiques. Mais cela ne signifie pas non plus qu'en raison des divergences et des idées différentes, les Indonésiens doivent être hostiles. Une solution doit être trouvée et cela doit également être mutuellement bénéfique pour les deux parties dans l'intérêt des personnes. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, voici l'histoire de ce soir, l'édition 13 juillet. On va commencer le 13 juillet 1930. Lucien Laurent inscrit le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors qu'elle ouvre les hostilités face au Mexique, la France inscrit par l'intermédiaire de Lucien Laurent le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde de football. Nous sommes alors à la 19e minute et trois autres buts suivront, finissant sur un score de 4-1, la France, qui est un des seuls pays européens à ne pas avoir de dédaigner cette coupe. Pokora a ses chances, mais ce sera en fait à sa seule victoire du tournoi. Finalement, le seul Français qui inscrit son nom dans l'histoire pour longtemps est Jules Rimet, instigateur de cet événement devenu un des plus populaires au monde. On continue le 13 juillet 1965, Sirac crée l'ANP. L'Agence nationale pour l'emploi est créée sur ordonnance du secrétaire d'État aux affaires sociales chargé de l'emploi, cher Chirac. Elle prend le relais des services extérieurs du travail et de la main-d'œuvre, ou sept mots, mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'ANP est un office autonome qui a pour mission de recenser les emplois disponibles et de venir en aide aux 300 000 chômeurs qui comptent la France en leur proposant travail ou formation. On termine le 13 juin 1996, l'avion DC-10 Garuda Indonesia s'est écrasé à l'aéroport Fukuoka. Garuda Indonesia est la compagnie aérienne nationale de l'Indonésie. Le 13 juillet 1996, l'avion DC-10 Garuda Indonesia s'est écrasé à l'aéroport de Fukuoka au Japon peu après le décollage, tuant 3 passagers. Depuis juin 2007, cette compagnie aérienne ainsi que d'autres compagnies aériennes indonésiennes sont interdites de voler les routes européennes pour des raisons de sécurité. Cependant, cette interdiction a été levée en 2009. Un an plus tôt, cette compagnie aérienne avait reçu la certification de l'audit de sécurité opérationnelle de l'IATA, ce qui signifie que Garuda remplit entièrement les normes de sécurité de l'aviation internationale. Garuda inclut dans la liste de la compagnie aérienne en 4 étoiles de Skytrax, ce qui signifie que cette compagnie a la performance et les services qui sont bons. En 2012, Garuda Indonesia a reçu la meilleure compagnie aérienne internationale parmi les compagnies aériennes de classe mondiale. Avec 81% des passagers ont exprimé une grande satisfaction envers le service de la compagnie aérienne. Chers auditeurs et auditrices, c'était notre histoire d'aujourd'hui. Ce soir, l'édition le 13 juillet. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'Indonésie et Singapour ont créé la paix régionale ». L'Indonésie et Singapour, comme les pays voisins, se sont engagés à travailler ensemble de façon positive et productive pour participer à établir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, notamment l'ASEAN, qui donnera des contributions à l'ordre mondial qui est plus digne. Cela a été transmis par le commandant en chef de TNI, le général Gatot Nurmantio, en tant que président de la délégation du comité de haut niveau Indonésie avec le commandant les forces armées de Singapour, le lieutenant général Perry Lim, en tant que président de la délégation de SLC Singapour à l'ouverture de la 20e de la réunion annuelle du rapport combiné Indonésie-Singapour du comité de haut niveau 2017, à Jakarta, mardi 11 juillet 2017. Le général Gatot Nurmantio a déclaré que la coopération militaire dans les réunions de SLC était une activité très stratégique. En plus d'évaluer les activités qui ont été faites, la réunion a également discuté de la coopération militaire entre les deux pays qui sont adaptés au développement de l'environnement stratégique et peut donner une image positive à l'Indonésie et Singapour sur la scène internationale. Il a dit que la coopération militaire entre l'Indonésie et Singapour vise à créer une zone sûre et calme, de sorte que la stabilité régionale est maintenue et peut soutenir d'autres secteurs, notamment le secteur de l'économie qui fait la région de l'ASEAN comme la région gagnante. Le général TNI Gatot Nurmantio a également souligné que les pays de l'ASEAN ont convenu d'établir la communauté de l'ASEAN qui est soutenu par 3 piliers principaux, à savoir la communauté politique de la sécurité de l'ASEAN, la communauté économique de l'ASEAN et la communauté socio-culturelle de l'ASEAN. Il a dit que l'établissement de la communauté ASEAN devait fonctionner dynamique afin qu'il puisse encourager la coopération pour les forces armées des deux pays au niveau qui est plus productif et stratégique. Cependant, le commandant des forces armées de Singapour, le lieutenant-général Perry Lim, a souhaité que les relations bilatérales continuent d'être renforcées dans l'avenir. Le terrorisme transnational est une menace claire et réelle. Les deux pays doivent travailler ensemble pour faire face à cette menace et maintenir la stabilité régionale. La série de la 20e session de la réunion annuelle de rapport combiné Indonésie-Singapour du comité de haut niveau 2017 a été commencée par la réunion informelle par le président de la délégation de chaque pays. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La session plénière du Parlement indonésien à Jakarta a approuvé mardi le projet de budget de l'État de 2018. Plusieurs points convenus dans ce projet sont entre autres les objectifs de développement de 2018 couvrant le chômage, la pauvreté, l'indice de développement humain et les objectifs de croissance économique. Dans son rapport, le président de l'Agence de budget du Parlement indonésien, Aziz Syamsuddin, a déclaré que l'Agence de budget a approuvé l'hypothèse de taux de chômage dans la gamme de 5,0 à 5,3%. Le taux de pauvreté est de 9,5 à 10%, tandis que l'indice de développement humain est d'accord sur 71,5.
Sedangkan target pembangunan di dalam tahun 2018.
L'objectif de développement en 2018, d'abord sur le chômage convenu à 5,0 à 5,3%. Deuxièmement, le taux de pauvreté est de 9,5 à 10%, Gini ratio 0,38 et l'indice de développement humain à 71,50%. En outre, le président de l'Agence de budget du Parlement, Aziz Syamsuddin, a mentionné que lors du scrutin de budget de l'État en 2018, la croissance économique a été convenue de 5,2 à 5,6% avec un taux d'inflation de 2,5 à 4,5%. Il a transmis la réalisation du taux de chômage ouvert ou TPT et du taux de pauvreté en 2018 a été fortement influencé par la réalisation de la croissance économique pour générer des opportunités d'emploi. Selon lui, de nouvelles opportunités d'emploi de qualité sont nécessaires pour réduire le TPT. En outre, la baisse du chômage devrait également avoir des implications sur la réduction du nombre de personnes pauvres. 2018, le développement dans les régions frontalières est axé aux infrastructures sociales. Le développement des infrastructures sociales comprend la construction de centres de santé communautaires, les marchés traditionnels et les bâtiments scolaires. Cela a été dit par le ministre de l'Intérieur, Cahyo Kumolo, quand il a assisté à une réunion de coordination du contrôle de la gestion des frontières du pays en 2017 à Jakarta, mercredi. Le développement des infrastructures sociales qui comprend 187 sous-districts frontières. Si le ministre des Communications et des Technologies d'Information est déjà terminé son roaming, comment le puskesmas, les marchés traditionnels, les écoles primaires? Donc, il y a une augmentation du bien-être. Selon le ministre Cahyo Kumolo, le développement des infrastructures sociales dans la région frontalière en 2018 est aussi suivi par le renforcement du secteur de la défense. Pendant ce temps, le développement des infrastructures économiques par le ministère concerné dans la région frontalière en voie d'achèvement actuellement à la réalisation de 99%, le gouvernement cible le développement des infrastructures économiques et sociales dans les zones frontalières comme la mise en œuvre de programmes stratégiques nationaux qui peuvent fonctionner à temps. Le week-end indonésien se tiendra au Potter's Field Park, Londres, en Angleterre, les 22 et 23 juillet 2017. L'événement qui vise à introduire les destinations touristiques, culturelles et culinaires d'Indonésie a eu lieu pour la première fois en 2016 et a attiré plus de 30 000 visiteurs de 50 pays. Cette année, le week-end indonésien montrera l'atmosphère chaleureuse de l'Indonésie avec le thème « Une fête de la plage ». Le directeur du patrimoine et la diplomatie culturelle du directeur général de la culture du ministère de l'Éducation et de la Culture, Najamuddin Ramli, lors de la conférence de presse tenue mercredi 12 juillet, a expliqué que Le week-end indonésien n'est pas seulement destiné à introduire la culture indonésienne dans la société britannique, mais aussi aux étrangers qui visitent le Royaume-Uni.
Memang kalau untuk diplomasi budaya kita di Inggris Raya, Indonesia itu sudah sangat.
Notre diplomatie culturelle avec la Grande-Bretagne, l'Indonésie est déjà très populaire. Mais ce week-end indonésien est destiné aux pays voisins du Royaume-Uni afin qu'ils puissent en apprendre davantage sur la culture indonésienne. Najamuddin Ramli expliquait, pencak silat Indonésia sera présenté à cet événement. En outre, il existe également des démonstrations pour cuisiner des aliments indonésiens tels que rendang, soto betawi et gado-gado. La musique d'angklung, le jeu traditionnel gasing, la danse de masque et la danse jaipong animeront le week-end indonésien avec le refong, le bâtiment emblématique de Tower Bridge. Le tatoueur Ken va mettre en valeur ses compétences pour soulever les motifs de Dayak et de Mentawai. À la même occasion, la directrice de la promotion du tourisme international du ministère indonésien du tourisme, Nia Niscaya, expliquait que la visite des touristes britanniques en Indonésie sont les plus élevées par rapport aux autres pays européens. Cette année, le ministère du tourisme cible la visite de 380 000 touristes britanniques en Indonésie et dans les 3 à 4 mois, il y a eu déjà 150 000 visites de touristes britanniques. Aujourd'hui, Sanur est l'une des destinations favorites sur l'île de Bali et située à Denpasar. Le chef de la Fondation du développement de Sanur, Ida Bagus Gede Siddhartha Putra, a déclaré à RRI à Sanur mercredi que le maire de Denpasar, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, a publié une régulation sur le zonage du développement à Sanur. Cette régulation est devenue des investisseurs dans le développement de l'hébergement touristique à Sanur. Enfin, la régulation de maire est publiée. Il y a le zonage, il y a le critère de développement, comme par exemple la première zone atteint 30 mètres carrés. La hauteur du bâtiment doit être de 3 étages. Chaque inacre doit y avoir un arbre. KDB ou coefficient de construction de base, seulement 40%. Maintenant, il y a la régulation, donc nous gardons le contrôle de cette communauté. Selon Ida Bagus Gede Siddhartha Putra, quelques investisseurs essaient de violer cette régulation. Quelques hôtels à Sanur ne respectent pas la régulation du maire numéro 6/2016 sur le zonage des zones stratégiques de Sanur. Ils souhaitent que la communauté puisse jouer un rôle actif à rapporter l'hébergement touristique à Sanur qui ne correspond pas aux règles. Les rapports seront soumis au gouvernement municipal de Denpasar. L'Indonésie est un pays invité au prestigieux Festival des arts culturels, Festival Europalia, qui tiendra du 10 octobre 2017 au 21 janvier 2018 dans 8 pays européens. Lors d'une conférence de presse tenue au Musée national de Jakarta mardi le 11 juillet 2017, l'un des membres de l'équipe d'experts scientifiques Europalia, Idham Setiadi, a expliqué que le Festival Europalia était l'un des efforts de la diplomatie culturelle pour garder les relations entre l'Indonésie et l'Europe. Selon lui, à travers ce festival, l'Indonésie montrera sa vision. Dans ce festival, l'Indonésie ne montre pas seulement la beauté de l'Indonésie, mais aussi les idées d'Indonésie à afficher.
Yang menarik di mereka sebetulnya hal-hal yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka.
La chose intéressante pour eux est en fait la chose qui répond à leur question sur la diversité. L'Indonésie est plus diversifiée que les pays d'Europe. Comment maintenir l'intégrité d'un pays diversifié? Ce sont des questions qui veulent être répondues non seulement à travers des expositions, mais aussi des spectacles artistiques, des discussions et autres. Idham Setiadi expliquait. La diversité de l'Indonésie sera affichée à travers 400 artefacts qui seront amenés là-bas. Ces collections sont le résultat d'un accord entre le conservateur européen et l'Indonésie. L'exposition sur les ancêtres est devenue l'un des principales concentrations qui seront apportées au Festival Europalia. L'exposition Ancestor montre les diverses façons dont la société indonésienne apprécie les ancêtres. Diverses traditions comme le carnaval, Moudik et Nyadran seront également affichées en Europe. Les artefacts apportés sont les collections de musées nationaux, Sumatra, Papouasie, etc. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel genre de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le magazine culturel. Et cette fois, je vais présenter l'île de Sangyang à Banten. L'île de Sangyang est un parc de tourisme naturel qui offre de nombreuses beautés de tourisme nautique à Banten. Sa superficie est d'environ 720 hectares et elle dispose de plusieurs plages offrant un écosystème sous-marin magnifique. C'est pour cela qu'elle a été baptisée l'une des sept merveilles de Banten. Si vous voulez aller à Sangyang, vous pouvez commencer le voyage de Jakarta vers la ville de Cilegon et ensuite continuer vers Anyer, ce qui prend d'environ 3 heures par l'autoroute. Et ensuite, il faut traverser en bateau à partir de la place de Manuk à Anyer. La traversée dure environ une heure. À l'arrivée sur l'île, vous sentirez l'air frais car il y a beaucoup d'arbres verts et feuillus. Sangyang dispose également d'une plage de sable blanc propre des eaux de mer claire. Vous pouvez pratiquer une variété d'activités sur la plage de l'île de Sangyang, entre autres des sports nautiques ou simplement vous détendre sur la plage. Comme par exemple, vous pouvez effectuer les sports tels que le cross-country, l'escalade, le camping photographié et pour profiter au mieux du panorama de la plage, allez sur la côte nord-ouest ou au-dessus de l'île de Sangyang et au long de la plage de Batu Mandi et le mont de Gede. Cette région est une zone touristique naturelle passionnante, soutenue par divers contours de terrain. Les touristes peuvent également profiter d'une vue panoramique sur la grotte abritant des centaines de chauves-souris. Dans les eaux autour de la grotte, il peut parfois sembler qu'un SM de requin attende qu'une chauve-souris tombe pour leur servir de repas. Que vous soyez amateur de plongée sous-marine, de plongée en apnée, de bain de soleil, de pêche, de navigation, de plaisance, vous pourrez apprécier la beauté des récifs coralliens et des parcs marins avec un bateau à fond de verre. Ou bien aller vers la zone de Tanjung Raden ou celle de Legon Waru et admirer les eaux de l'océan du sud qui baigne l'île de Sangyang. Outre d'apprécier le tourisme nautique, vous pouvez également profiter d'une visite touristique. Allez à la zone autour du poste de la Marine nationale indonésienne. Là, vous pouvez encore voir des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, comme des canons défendant la forteresse militaire japonaise, construite pour protéger le détroit des attaques des forces alliées. Chers amis, c'était magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé L'île de Sangyang située à Banten, Java West. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleurs et un petit titre, Sungai Liat Triathlon 2017. Selon le ministre du Tourisme Arif Yahya, l'événement du tourisme sportif donne un impact direct sur l'économie du peuple, une valeur de nouvelle élevée afin qu'il devienne un moyen efficace de promotion. Ainsi, cette année, on a tenu de nombreuses activités de tourisme sportif en Indonésie. L'un d'entre eux, qui aura lieu, est Sungai Liat Triathlon 2017. Le but de cette activité est d'augmenter les arrivées de touristes aux îles Bangka Belitung ainsi que des programmes de soutien de Merveilleux en Indonésie qui visent cette année 15 millions d'arrivées de touristes étrangers et 265 millions de mouvements touristiques nationaux dans le pays. Le triathlon est un sport qui combine trois sports, à savoir la natation, la course et le vélo. L'activité qui a lieu à la ville Sungai Liat, Bangka Belitung, est régulièrement tenue chaque année à partir de 2012. En 2012, l'événement a été encore appelé Sungai Liat Duathlon et renommé Sungai Liat Triathlon en 2013. Sungai Liat Triathlon 2017 aura lieu le 22 avril prochain. Sungai Liat Triathlon 2017 est la 5e édition qui est organisée par Bangka Belitung. L'événement sera suivi par 500 participants de 19 pays. La quantité est plus grande que l'édition 2016, qui était suivi par 428 participants de 9 pays. Il existe 3 catégories de Sungailia Triathlon 2017, à savoir Long Distance, qui se compose de natation 1,9 km, 90 km de vélo et 21,1 km de course. Standard Distance, constitué de 1,5 km de natation, 40 km de vélo et course de 10 km. Et Sprint, qui se compose de 750 mètres de natation, 20 km de vélo et course de 5 km. Avant d'organiser Sungailia Triathlon 2017, Bangka Belitung a tenu un événement du championnat Indo MXGP 2017. Cet événement de croix de moteur devient le premier en Indonésie et a assisté par les meilleurs croiseurs de 27 pays au monde. Ce championnat a eu lieu à Pangkal Pinang du 4 au 5 mars. Pangkal Pinang était choisi comme lieu du championnat Indo MXGP en 2017 car il a la structure du sol de sable comme un caractère adapté au circuit. En outre, l'emplacement est le seul endroit qui est juste en face de la plage qui est équipée des hôtels et centres de villégiature. Pas très différent de Sungailia Triathlon, le championnat de sport de croix de moteur Indo MXGP est aussi lancé pour stimuler les arrivées des touristes dans les îles Bangka Belitung. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Sans retard, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.ca.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Dans cette édition, nous allons vous présenter une chanteuse pop qui s'appelle Syahrini. Syahrini ou Fatimah Jilani Rini est née à Bogor le 10 août 1982. Depuis le début de sa carrière à ce jour, Syahrini a sorti 4 albums. Bon, serviteur, avant de connaître plus loin, nous allons entendre sa chanson intitulée Sauce. Bonne écoute.
Kau melihatku sampai terdengar bunyi dak-duk-dak-duk detak jantungku. Kau rayu aku sampai aku jadi malu. Kau sentuh aku sampai gemetar tubuh dari rambut sampai ujung kaki. Aku terpaku merasakan sesuatu.
Serviteur, c'était la chanson de Syahrini intitulée Sauce. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.co.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. Serviteur, Syahrini a publié la chanson Cetar qui est dans son quatrième album intitulé Princess Syahrini. Cet album est sorti le 27 janvier 2016. Il y a 6 nouvelles chansons et 4 vieilles chansons. Ce quatrième album a été lancé après que Syahrini soit vide pendant 4 ans. Elle a dit que l'album était son rêve, parce que selon elle, il y a eu beaucoup de rêves qui étaient réalisés grâce au travail dur. En outre, cet album était une preuve de Charini qu'elle n'est pas seulement célèbre à cause de la sensation, mais elle a les œuvres significatives pour la scène de la musique indonésienne. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson suivante de Charini intitulée « C'est toi qui choisis ». Bonne écoute. C'est notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.